8h49 en ce lundi matin. Vous êtes bien branchés à Boulevard 102.1, le trio de Reg Against le matin avec vous jusqu'à 10h. Malgré le temps plutôt gris, pas super chaud, des grands vents et même de la pluie pas mal abondante par moment, il y a quand même eu plusieurs milliers de spectateurs qui ont assisté à un match de soccer de la Première Ligue canadienne qui était en visite à Québec samedi au stade du PEPS de l'Université Laval.
Ben en plein ça, une carte de visite réussie de la part de la Ville de Québec pour ce premier match de la Première Ligue canadienne, si bien qu'on parle déjà d'une expansion à Québec pour l'année 2027. Mais pour cela, avant tout, ça va prendre un stade de soccer permanent à l'été 2029. Et vendredi, Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord, nous avait invité à un point de presse au Parc Victoria parce qu'il y a une petite idée où il mettrait ce stade de soccer-là permanent. On l'écoute.
Ce serait d'aménager un stade de soccer sur le site actuel de l'ancienne centrale de police, sur la centrale du Parc Victoria, afin de faire du secteur où on se trouve présentement une véritable cité des sports, avec le Stade Canac, qui brillera, on l'espère, bientôt à nouveau de mille feux, avec les terrains de tennis qui sont là, avec la patinoire couverte, avec d'autres surfaces de jeu pour le soccer ici et un skatepark.
Donc, un stade de soccer flambant neuf, Parc Victoria.
En plein ça, on scratche la vieille centrale comme il est prévu, puis on met un stade de soccer-là permanent d'entre 6 000 à 10 000 places, à un coût là, qu'on estime entre 45 et 80 millions, qu'on veut partager dans un partenariat public-privé, donc une entreprise qui investirait et les trois paliers de gouvernement, c'est-à-dire la ville, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Je trouve l'idée super bonne parce que justement, ça permettrait à Québec d'avoir son quartier sportif, un peu comme on voit dans toutes les grandes villes en Amérique du Nord. T'sais, on va à Philadelphie, l'aréna de hockey, le stade de foot, le stade de base, tout dans le même quadrilatère.
On se partage souvent le même stationnement.
Là. En plein ça. Donc, ce serait également très bien pensé parce que le projet du futur tramway, il va avoir une station proche. On pourrait justement avoir des gens de Limoilou-Vanier qui viennent à pied en restructurant l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Bref, un beau projet. Et on veut aussi attirer une équipe féminine de la Super Ligue du Nord dans laquelle présentement les Roses de Montréal participe. Donc,
ça serait pas un stade juste pour une équipe, là.
Non, exactement. On veut faire un stade pour justement attirer deux équipes et permettre aux meilleures équipes élites également de la grande région de Québec de jouer des matchs.
Sam Hamad a présenté des candidats la semaine dernière. Le maire Marchand l'a déjà fait aussi. C'est pour quand ces annonces-là pour ce qui est de Claude Villeneuve?
Comme Claude Villeneuve l'a déjà dit, ça va être au début du mois de juillet parce qu'il y a plusieurs futurs candidats qui présentement sont à l'emploi et doivent terminer leur mandat. Ceci dit, il a assuré que les candidats de Québec d'abord vont pouvoir répondre aux questions, ce qui n'était pas nécessairement le cas au point de presse des candidats de Sam Hamad. Et à cet effet-là, c'est Véronique Dallaire, la conseillère municipale des Saules-les-Méandres, qui a tenu à prendre la parole. Elle est dans l'équipe de Québec d'abord.
En fait, je suis pas sûre c'est une question d'habileté. Je pense qu'on leur a pas permis de répondre. Puis il est là le problème pour moi. Tu sais, on a regardé les candidatures à chaque fois qu'il y a une annonce. C'est intéressant. Là, on a hâte. On est fébrile par rapport à la campagne qui est devant nous. Mais je pense pas qu'on est devant des candidats qui n'étaient pas habiles à répondre ou qui n'avaient pas envie de répondre.
On leur a... Ou qui n'étaient pas capables.
Ou qui n'étaient pas capables de le faire. C'est pour ça l'habileté. Je pense qu'on leur a interdit de le faire. Puis c'est ça qui... En fait, je trouve ça à la limite choquant puis insultant pour les candidatures qui ont été présentées hier.
Ça dit quoi? Ils n'ont pas confiance?
Bien, je pense que votre collègue Jeff le dit. Je pense qu'on est devant, puis que ça va se dévoiler encore plus dans les prochaines semaines, là, l'équipe d'un seul homme.
Donc, Québec d'abord, on est une équipe.
Exactement. Leadership Québec, on est un one-man show. Maintenant, comment on va se démarquer de Québec fort et fier, qui mise beaucoup sur l'équipe également, Bruno Marchand, dans les différentes candidatures qu'il a présentées. L'annonce du stade de soccer est une belle façon de faire parce que Bruno Marchand privilégierait l'avenue du terrain de l'ancien Colisée de Québec pour faire justement un lien avec le centre Vidéotron. Alors, il y aura justement des différences à cet effet.
Toujours dans la course à la mairie de Québec, on a appris quoi vendredi dernier que le chef de respect citoyen, Stéphane Lachance, France. Lui, il habitait à Lévis là, depuis une trentaine d'années facile. Comment Claude Villeneuve évalue la situation et l'endroit où habite Stéphane Lachance?
Je te laisse l'entendre. Il a tourné un peu la situation en ridicule.
On va le prendre à l'envers. Mettons que je me loue un bureau, un appartement à Lévis, puis que je décide que j'aime pas les sondages à Québec, que je vais aller me présenter maire de Lévis. Là. Est-ce que vous pensez que je serais un candidat crédible pour la mairie de Lévis? Je pense pas. Donc, c'est... tu sais, à la fin, on a des précédents à Québec. Jean-Paul Allier était propriétaire à Québec, mais bon, on comprend qu'il habitait davantage l'île d'Orléans. Monsieur Hamad, on comprend qu'il possède un condo, qu'il l'occupe pas vraiment. Là, en fait, il dit que c'est loin un appartement à Bourgneuf. Puis il habite Saint-Augustin. À la fin, moi, je pense que c'est aux gens de juger. C'est au citoyen de Québec de dire, OK, la personne que je choisis comme maire, es-tu investi dans cette ville-là? Moi, je paye des taxes à Québec. En fait, j'ai jamais payé des taxes municipales ailleurs qu'à Québec. Je pense que c'est important pour les gens de Québec d'être représentés par quelqu'un qui est engagé dans cette ville-là, qui réside, puis qui dort une fois de temps en temps, parce qu'il a payé des taxes, puis aussi faire l'expérience de la vie de cette ville-là. Fait qu'à la fin, moi, je pense que c'est au citoyen de Québec de juger.
Et évidemment, des petits jabs aux autres chefs dans la course à la mairie.
Petit jab à sa maman qui habite à Saint-Augustin, il n'y a pas de doute. Tu sais, je suis d'accord avec Claude Villeneuve, faut la vivre, la ville de Québec, pour pouvoir bien la gérer. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il peut avoir des mauvaises décisions qui sont prises par ceux qui la vivent. T'sais, depuis tantôt qu'on parle de Saint-Roch, si l'aide est vraiment juste pour les commerçants de Saint-Joseph, c'est une erreur. T'sais. Ça a pris du temps avant qu'on s'occupe de Saint-Roch, du côté du maire Bruno Marchand. Donc, si on regarde Régis Labombe, il y avait Clotaire Rapaille, puis Jean-Paul Lallier n'a jamais voulu faire de centre Vidéotron pour sauver les Nordiques. Fait que, tu sais, il y aura toujours des erreurs, mais pour vraiment prendre conscience de comment la ville fonctionne, de qu'est-ce que les citoyens ont besoin, il faut absolument que tu vives cette ville-là par entière.
Oui, puis on va suivre tout ça. C'est quand même très intéressant. J'aime l'idée quand même d'un nouveau terrain de soccer de niveau professionnel ici à Québec. Ça serait une bonne idée. Puis j'aime bien l'endroit aussi, le parc
vraiment.
Victoria.
Moi, honnêtement, ça m'a fait triper parce qu'en plus, on parle de Saint-Roch. Ça va contribuer à la relance de Saint-Roch. Voir des gens qui vont être à proximité de Saint-Roch, à proximité des commerces. Et c'est un endroit qui va être très bien desservi. Transport en commun, facile d'accès aussi pour les différentes voitures. Alors, je voyais un beau coup gagnant là, du côté de Québec d'abord avec cette annonce.
Dans les prochaines minutes, on jase flag football avec l'ancien de la NFL, Anthony Auclair. Mais tout d'abord, en musique, Fortune Cookie Club est là avec It's Al. Il y aura du flag football aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. On a su au cours de la dernière semaine, des dernières semaines, qu'il y a une forte possibilité qu'il y aura dans l'équipe américaine des joueurs de la NFL.
Ils savent pas jouer à ça au flag football, les joueurs de la NFL. C'est nous autres qui est meilleurs au monde.
C'est ça. On connaît la liste des 12 joueurs pour justement l'équipe canadienne qui vont tenter de se tailler une place, se qualifier pour ce premier tournoi olympique en 2028. Et sur la liste des joueurs, il y a l'ancien de la NFL, Anthony Auclair, qui est au bout du fil. Anthony, bon matin.
Hey, bon matin à vous autres.
Salut, merci d'être là, Anthony.
Ça fait plaisir, merci de me recevoir.
Ça représente quoi pour toi, Anthony, de faire partie de l'équipe canadienne de flag football?
Honnêtement, c'est vraiment spécial. Puis tu sais, tu l'as mentionné, là, le flag football sera aux Olympiques, qui était auparavant, pour un joueur de foot, quelque chose de non envisageable parce que le sport n'était pas aux Olympiques. Maintenant, c'est une possibilité de pouvoir s'y rendre. Ce qui est cool en ce moment, c'est que tu sais, le Canada, demain matin, s'il y avait les Olympiques, on n'en ferait pas partie des Olympiques parce que on a fini 7e à un tournoi mondial l'année dernière. Ils prennent 6 pays seulement.
Okay.
Donc, dans les prochaines années, là, ça va être important de travailler pour pouvoir se qualifier justement. Donc, l'équipe qui a été faite cette année est vraiment importante là, pour le futur du Canada aux Olympiques.
Hey Anthony, il y a plusieurs personnes qui ont réagi à la nouvelle qu'il y aurait la possibilité, forte possibilité, d'avoir des joueurs de la NFL dans l'équipe américaine. Est-ce que c'est automatique qu'un joueur de la NFL va être bon au flag football?
Non, c'est pas automatique. Puis, tu sais, ça fait beaucoup de controverses aux États-Unis. Dans la communauté de flag, là, les joueurs sont pas nécessairement contents. C'est pas qu'ils sont mécontents de la nouvelle, c'est plus qu'ils voient ça comme un manque de respect pour eux, parce que, tu sais, ça fait 4 ans en ligne qu'ils gagnent le championnat mondial, donc eux, ils pensent qu'ils devraient faire partie de l'équipe des Olympiques. Ce que moi, je trouve que très fair pour tout le monde, c'est de faire un camp d'entraînement où est-ce que ces joueurs-là de la NFL viennent compétitionner puis faire leur place contre les joueurs de flag, justement. C'est un peu ce qu'on a fait ici, là, tu sais, en équipe actuellement, on a des anciens professionnels, on a moi qui joue dans la NFL, on a Michael O'Connor qui joue dans la CFL, donc plein d'autres joueurs aussi, d'anciens joueurs de foot qui ont joué universitaire. On a quand même dû passer à travers un camp pour se prouver et faire l'équipe. Donc, je verrais le même principe aux États-Unis où est-ce qu'il y aurait une semaine de camp d'entraînement avec ces joueurs de flag-là, les joueurs de la NFL, pour déterminer c'est qui la meilleure équipe, là.
Qu'est-ce que c'est différent, le football, Anthony, le flag football, qui fera en sorte que le meilleur joueur de flag football à l'heure actuelle, ou même un joueur peut-être au niveau des États-Unis, quatrième ou cinquième meilleur de son équipe, passera en avant de Patrick Mahomes, par exemple?
Je vous dirais que, tu sais, il faut comprendre que c'est une game à 5 contre 5 où est-ce que le terrain est vraiment petit. Ce qui fait en sorte que les rosters, là, ça a été annoncé là, pour les Olympiques, là, ça va être des rosters de 10 joueurs seulement par équipe. Donc là, vous comprendrez que à 5 contre 5, 10 joueurs dans la même équipe, il va falloir à quelque part qu'il y ait des joueurs qui soient super versatiles. Donc, tu sais, un carrière au flag, nécessairement a besoin de certaines habiletés pour jouer ailleurs sur le terrain, étant donné que c'est juste un roster de 10. Donc, tu sais, souvent, ça va être des joueurs beaucoup, beaucoup versatiles. Tu sais, je verrais un Lamar Jackson qui est capable de jouer autant receveur que demi-défensif versus un Patrick Mahomes que je suis pas sûr qu'il pourrait jouer tant que ça en défensive.
Okay.
Donc, tu sais, vous voyez, là, c'est vraiment une question de versatilité au flag.
Ouais. Hey, c'est quand même très impressionnant, Anthony, que le flag football va faire ses débuts en 2028 aux Olympiques à Los Angeles. Donne-nous donc une petite idée de l'ascension, de la popularité de ce sport-là. À quel point, en ce moment, au monde, le flag football est populaire?
Je dirais que c'est fou. Puis si vous regardez juste au Québec, dans les deux dernières années, là, c'est le sport qui a le plus grandi dans les écoles, et avec raison, là, de par l'annonce aux Olympiques. C'est un sport qui était déjà assez populaire au Québec en général, de façon récréative, de façon compétitive, à travers les jeunes et les vieux. C'est une façon aussi de garder un certain niveau de compétition après votre carrière collégiale ou universitaire. Donc, c'est un sport qui est vraiment plus accessible que le foot. Mais c'est fou comment ça a grandi. Là. On l'a vu dans les écoles cette année. On a fait le premier camp de flag féminin à Québec avec la compagnie à moi et mon frère. Et donc, on est allé visiter les écoles. Puis, on y a des entraîneurs qui nous disaient que, justement, cette année, ils ont dû faire 3 équipes juvéniles parce que ils ont passé de 25 inscriptions à 150 ou des trucs pas possibles comme ça. Là. Donc, dans les écoles, là, ça grandit, c'est vraiment fou à voir.
Anthony, on parle beaucoup du problème de commotion cérébrale et surtout chez nos jeunes. Est-ce que, ultimement, le flag football pourrait attirer plus de joueurs vers à l'encontre du football, donc retirer des programmes de football des écoles et que les écoles se concentrent sur le flag football?
Je pense pas que c'est une offre différente. Tu sais, c'est drôle, tu parles de commotion, mais tu sais, c'est souvent... c'est sûr qu'au foot, là, il y a un haut risque de commotion de par le fait que c'est super contact, c'est super physique. Par contre, tu pourrais avoir une commotion cérébrale dans n'importe quel sport. Tu sais, même au flag, tu pourrais tomber sur le dos, avoir une espèce de whiplash où est-ce que ta tête vient frapper le sol. Tu sais, t'es jamais vraiment complètement protégé des commotions cérébrales. C'est sûr que moi, je vois plus ça comme une offre différente. Okay. Tu sais, t'en as qui adorent les c'est un peu où je suis rendu dans ma carrière, en fait, c'est drôle, je vais faire le parallèle. C'est un peu, j'étais tanné du risque des blessures, tanné des contacts nécessairement dans les camps d'entraînement, surtout dans la NFL. Donc, tu sais, pour moi, mais j'aime encore courir les tracés de passe, attraper des ballons, tout ce qui vient avec.
Donc, tu retrouves ça au flag.
C'est ça, exact. C'est le même principe pour un jeune, peut-être que lui, il n'aime pas ça, le contact, mais il aime tout ce qui est que le flag offre de skills, courir les tracés de passe, lancer le ballon, jouer en défensive, couvrir. Donc, tu sais, c'est juste une autre différence, selon moi.
Anthony, quand la saison de la NFL termine aux États-Unis, on cherche souvent un produit alternatif. On a vu des essais avec notamment la XFL. Est-ce que tu crois que ça pourrait être le flag football qui devienne cette alternative-là pour attirer des grandes foules et même un réseau de télévision qui serait intéressant d'en présenter?
Mais tu vois, tu sais, avec l'annonce aux Olympiques, ce sport-là est juste devenu plus légitime. On y accorde beaucoup plus d'importance, étant donné que c'est un sport, on dirait, qui est plus reconnu maintenant. Et ça pourrait... C'est un bon point que tu apportes là. Ils ont essayé de faire une ligue professionnelle de flag dans les dernières années aux États-Unis. Je sais pas à quel point ça fonctionne pour l'instant. Je sais qu'ils ont eu plusieurs embûches. Mais si ça fonctionne un jour, j'imagine que ça pourrait être quelque chose que les gens aimeraient regarder. C'est un sport qui est super explosif, qui a beaucoup de points. Donc, c'est le fun à regarder, c'est sûr. Ça pourrait être une belle alternative, effectivement.
Hey, Anthony, en terminant, juste question technique par rapport aux Olympiques de Los Angeles en 2028, parce que c'est pas demain. Là, l'équipe canadienne va tenter de se tailler une place ou se qualifier pour les Jeux. D'ici là, est-ce que... Tu sais, la question est simple. C'est-tu automatique, si vous vous qualifiez, que tu fais partie de l'équipe ou il va y avoir d'autres camps d'entraînement ou d'essais?
Non, c'est pas automatique. C'est une excellente question. Tu vois, là... Je ferais le parallèle à une équipe professionnelle. Okay. Tu sais, à chaque année, il y a un camp d'entraînement où est-ce qu'il y a des coupures, tu repêches des nouveaux joueurs. Ben, moi, pour le succès de l'équipe canadienne, je verrais le même principe à chaque année où est-ce que, OK, mais à chaque année, tu réinvites ton équipe principale à un camp d'entraînement, un peu ce qu'ils ont fait cette année, mais tu amènes des nouveaux joueurs qui sont compétitifs. Puis là, tu vois, OK, ben, maintenant, cette année, en 2026, exemple, ben, ça, c'est notre meilleure équipe, c'est nos meilleurs 12 joueurs. Donc, on va de l'avant avec eux autres. C'est un peu le même principe d'une équipe professionnelle qui, à chaque année, a des mouvements dans leur alignement. Donc, tu verrais ça comme ça un peu plus que, OK, mais là, pour 3 ans, c'est la même équipe parce que c'est unfair pour tout le monde dans le sens que, tu sais, les joueurs, c'est sûr qu'on ne rajeunit pas à travers les années non plus. Et en plus, tu as des jeunes qui vont devenir bons aussi. Donc, tu sais, pour que le pays soit le meilleur possible, je pense qu'on devrait refaire tout le temps les sélections à chaque année.
Ah, c'est un excellent point. Anthony Auclair, ancien de la NFL, membre de l'équipe canadienne de flag football. Anthony, hey, merci pour ton temps ce matin. Vraiment, vraiment cool comme jasette.
Hey, merci à vous autres. C'est vraiment le fun.
Puis on vous souhaite bon succès.
Yes, merci.
Salut, Anthony. Anthony.
Toujours super intéressant de jaser avec Anthony Auclair là, qui a joué avec les grands footballeurs de ce monde dans la NFL.
Et maintenant, prend soin des athlètes du Roger Or en tant qu'entraîneur adjoint et également est en train de développer le flag football à vitesse grand V au Québec. Alors, un bel exemple de joueur professionnel qui s'est en allé aux États-Unis pour vivre son rêve et par la suite... revient justement à sa terre natale qui est Québec, la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, et fait profiter de son expérience à la jeunesse.
9h10, on fait une courte pause publicitaire, ensuite de la grande visite ici en studio avec nous. Jean-Philippe Roy, mon chum JP, vous reconnaissez peut-être ce nom-là si vous avez suivi cette saison l'émission Les Traîtres à TVA. Il a fait partie du jeu télévisé, mais il est aussi et surtout le président et fondateur de ce nouveau phénomène très populaire qui est Québec Mulet. Oh oui, les fameuses coupes Longueuil. Il est avec nous en studio après la pause. Boulevard.